about you. Are you racing or watching?
La dispute. Art plastique. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Spino et Camille André. Prise de son assurée ce soir par Jacques Hubert. Réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, Frédéric Bonnet, Florian Guettet et Stéphane Coréard pour parler ensemble de l'exposition de Laure Prouveau au Palais de Tokyo, des impressionnistes à Londres au Petit Palais et de Guernica au Musée Picasso. Aïssa Tundoy est là pour donner à entendre vos commentaires ou relayer vos questions via Facebook ou Twitter, et puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour un des films de la rétrospective Dario Argento en version restaurée, film ressorti ce jour dans les salles. Nous ouvrons cette émission avec une exposition attendue à plus d'un titre, celle de Laure Prouveau, lauréate en 2013, à 35 ans du Turner Prize, la plus importante récompense décernée à un artiste au Royaume-Uni, et pas nécessairement ressortissant de ce pays, puisque Laure Prouveau est française. On a appris d'ailleurs tout récemment qu'elle représenterait notre pays à la Biennale de Venise en 2019, pour sa première exposition personnelle dans une institution parisienne. C'est le Palais de Tokyo qui lui offre un grand espace avec pour commissaire Dariat Beauvais et comme scénographe Diogo Passarinio.
Les objets me parlent souvent, ils ont un signe ou ils disent... Ils sont insecure, ils sont là. Ouais, mais je sais, vous allez me remettre dans un storage bientôt, puis personne ne va me regarder. Quel est mon futur? Donc il y a toujours. Puis il y a des vidéos qui s'occupent des objets qui disent: non, don't worry, we'll take care of you, I'll blow the dust out of you. And je m'occuperai de toi, même si plus personne ne va te regarder.
Beaucoup d'anglais évidemment dans le français de Laure Prouveau, mais ça fait quand même un certain nombre d'années qu'elle vit ou elle a vécu en tout cas au Royaume-Uni, puisque j'ai lu récemment que dans le dossier de presse, je crois qu'elle partage son temps entre Londres, Anvers et une caravane dans le désert croate ou quelque chose comme ça. C'est marqué dans la bio, c'est ça, Florian Guettet? Mm-hmm. Bon, vous confirmez. Bah tiens, allons-y. Qu'est-ce qu'on découvre au Palais de Tokyo quand on arrive dans les espaces confiés à Laure Prouveau?
On découvre un territoire bricolé, plein de d'énigmes, plein de recoins, plein qu'on a du mal à embrasser d'un seul regard, mais qui pose une question qui me semble intéressante et même cruciale, qui est de savoir si le territoire de l'enfance peut être le socle de l'identité, et à quel titre, et sous quelle forme. Et ce que montre Laure Prouveau, c'est que ce territoire de l'enfance n'est pas forcément un territoire déterminé, mais qu'on peut en faire, en jouer, on peut en faire ce qu'on veut et en jouer autant qu'on veut. Donc elle en conserve des choses, elle en transforme beaucoup. En fait, c'est une sorte de territoire d'Alice au Pays des Merveilles, mais une Alice qui serait complètement mythomane et qui assumerait totalement ses mensonges et qui nous entraînerait avec elle dans ses hallucinations. Alors on commence par une forme de terrier, hein, qui serait le terrier d'Alice, qui est ce couloir courbe d'une quinzaine de mètres, dont les parois sont recouvertes de broderies, de tapisseries. Alors on pourrait y voir une métaphore de la trame de la mémoire, et puis on y trouve déjà tout le vocabulaire, en fait, qu'elle va formel, hein, plastique, qu'elle va déployé dans son installation exposition, parce que c'est difficilement présentable comme une exposition, c'est un projet vraiment plus global. Donc on y trouve le service à thé, alors qu'on pourrait croire être celui d'Alice au Pays des Merveilles, mais qu'elle rattache à une mythologie familiale plus personnelle, avec une histoire de grand-mère qu'on surnommerait Wanty, parce qu'elle n'arrêterait pas de demander qui veut du thé. Il y a des éléments de low-tech, hein, de petites technologies qu'on imagine être celles de son enfance, les premiers enregistreurs, les premiers téléphones, etc. On y trouve des légumes défraîchis, on y trouve et puis des phrases énigmatiques, assez sibyllines, qui sont là, qui sont des adresses et qui essayent de nous entraîner un peu plus haut, un peu plus à gauche, un peu plus en dessous. On est complètement désorienté dès l'entrée de ce couloir courbe. Et puis au milieu de ce couloir courbe, une sorte de chemin de traverse qui nous emmène sur un à-côté. Dans cet à-côté, il y a un entre-deux. Dans cet entre-deux, il y a une vidéo qui est présentée, là où normalement on ne présenterait jamais des vidéos. Et puis si on continue encore, on a une sorte de scène... voilà, une sorte de conte un peu halluciné d'un dialogue entre un éclair au chocolat et une canette. Et puis encore un petit peu plus loin, on arrive derrière les cimaises, on déborde complètement de l'exposition, on est là dans les coulisses du Palais de Tokyo, puisqu'on voit vraiment l'envers des murs avec leur côté bricolé, avec des trous qui nous permettent de revoir l'exposition, mais d'un point de vue marginal en extérieur. Et puis on entend une sorte de répétition. Une phrase, look or don't look at here, donc regarde ou ne regarde pas ici, et puis qui est en fait l'extrait d'une vidéo qui est posée au sol. Et donc on est tout le temps dans cette forme d'errance, à ne pas savoir ce qu'on voit, ce qu'on comprend, et si on doit prendre ce qui nous est donné pour vrai ou pas, notamment la vidéo qui est présentée dans cet entre-deux, qui nous raconte une forme de cauchemar, où on ne sait pas si elle est dans une forme de rêve qu'elle se raconte elle-même, donc ce seraient des légumes qui tomberaient du ciel pendant son sommeil et qui la réveilleraient, ou si c'est un événement magique qui lui serait arrivé, qui aurait conditionné son exposition. Donc on ne sait pas bien où on se trouve, hein, vraiment, on ne sait pas bien où on se trouve, jusqu'à ce qu'on sorte donc de ce fameux couloir en tissu qui s'effiloche finalement, et puis s'effiloche d'un point de vue presque d'une manière organique, puisqu'il devient les fils deviennent des branches, des broussailles. Des broussailles plutôt mortes, mais qui nous mènent sur une forme de jardin d'hiver en rotonde. Et puis là, c'est un tout autre univers qui arrive.
Ah, tout autre univers. Qui va poursuivre la description dans un premier temps, Stéphane Coréard ? Vous poursuivez ?
Oh, je suis pas sûr que ce soit la peine, parce que moi, je préférais personnellement écouter Florian Gaité parler de cette exposition que de la voir. Ça m'a à peu près autant passionné qu'un match France-Danemark. Tout ce qu'il a dit est vrai. Mais c'est beaucoup mieux décrit, à mon avis, qu'en vrai. Le problème, c'est que...
Vous voulez pas décrire, hein ?
Si, je veux bien décrire. Bah, quand on arrive au centre, alors c'est un jardin d'hiver, si on peut dire, puisqu'il fait quand même 30 degrés, donc c'est quand même un hiver assez tropical. Et au centre, il y a une fontaine, une grande fontaine ovale, dans laquelle il y a 9 saints monumentaux d'où jaillissent de l'eau. Et cette fontaine fait semblant de fuir, puisque autour il y a une flaque, mais qui est une flaque en résine, voilà. Et puis il y a une sorte de passage qui reprend un petit peu la même forme que le premier corridor courbe qui amène à l'exposition. Et là, dans lequel c'est plutôt des frigos défoncés, dans lequel poussent des framboisiers, des terres cuites, toujours en forme de seins ou de fesses. Voilà pour la description.
Et puis d'autres coulisses qui nous amènent à un belvédère, sur lequel on peut contempler cette fontaine et ce jardin d'hiver. Alors, allez, poursuivez maintenant, avant qu'on entende aussi Frédéric Bonnet dans un instant.
Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. C'est vrai que tout le monde dit que Laure Prouveau est une artiste formidable. Moi, je n'ai pas vu encore l'exposition ou les œuvres qui me permettraient d'adhérer à ce jugement. Mais en même temps, j'ai l'impression que, comme souvent, c'est ce qu'on devine à demi-mot dans la presse, c'est ce qu'on entend à demi-voix dans le milieu, l'exposition est assez ratée. Ça devient embêtant, parce qu'il y a quand même beaucoup d'expositions d'artistes qui sont supposément bons ou assez bons au Palais de Tokyo qui sont ratées. Donc je pense que c'est peut-être une question à se poser, mais moi elle m'a surtout paru incroyablement datée, on le devinait un petit peu à des éléments que livrait Florian Gaité. Je vois vraiment pas le phénomène Prouveau là-dedans, cette tapisserie effectivement monumentale d'après photo, hein, qui est une tapisserie mécanique qui tapisse ce corridor, c'est vraiment un tic plastique de l'école de Glasgow, de tous les jeunes artistes de l'école de Nantes depuis 15 ans nous infligent, tous ces petits tablotins là, Kawara, effectivement, sur lequel il y a ces slogans en blanc sur noir, en fait, reprennent aussi, et on pense de plus en plus d'ailleurs plutôt à des petits tableaux de Ben qui, avant d'écrire à la main, écrivait comme ça en caractère bâton, et même les slogans d'ailleurs, je trouve un peu idéaliste ou New Age. Par exemple, I know we have a lot in common. Bon, voilà, c'est des choses qui rappellent effectivement Fluxus. D'ailleurs, il y a aussi des juxtapositions d'objets et puis de légendes qui, là, font plus penser à Georges Brecht. Et puis, il y a effectivement la vidéo, qui est quand même le gros morceau de l'exposition. Cette vidéo un peu circulaire dans laquelle elle fait un tour de l'exposition. Elle ressort dans le jardin partagé qui... un peu à l'abandon, qui borde le palais de Tokyo, et elle revient, et là on pense plutôt au film de Marcel Reiss de la fin des années 60, quand même en beaucoup moins rock et aussi en moins drôle, parce qu'on parle beaucoup de l'humour, voire de l'autodérision de leur prouveau, enfin nos confrères en tout cas le font fréquemment, mais là personnellement j'ai pas du tout vu ça, j'ai eu l'impression de revoir quelque part, enfin c'est le même type de proposition que Camille Henro, on va dire, c'est-à-dire il y a beaucoup de points communs, hein, il y a le même un fond thématique d'actualité, je dirais, là c'est le réchauffement climatique et le féminisme, bon ça nous change un petit peu. Cette mise en scène que moi personnellement je supporte plus de l'artiste comme chercheur, hein, donc on a le droit comme toujours aux coupures de presse découpées, à des notes griffonnées, comme si on était dans son cerveau. Cette espèce de non finito qui serait une illustration de cette espèce d'urgence à transmettre cette pensée complexe avant même d'avoir fini de la formuler. Bon, effectivement une certaine fantaisie parfois un peu gratuite qui fait comme ça un peu artiste. Et puis l'anglais partout évidemment, hein, toutes les vidéos sont en anglais non sous-titrées et ça bien sûr ça fait artiste international.
Bien, après ce premier regard de Stéphane Correa, c'est Frédéric Bonnet qu'on n'a pas encore entendu sur l'exposition de Laure Prouveau au Palais de Tokyo.
Oui, mais je suis très partagé sur cette exposition. J'y suis allé vraiment avec de grandes craintes qui se sont en partie révélées exactes, parce que évidemment toute exposition de ce genre voit son lot de publications sur les réseaux sociaux immédiatement. Et alors la seule et unique chose qu'on a vu sortir, c'était cette grande fontaine mammaire. Que j'ai trouvé terrible en photo et que j'ai effectivement trouvé terrible en vrai. Mais j'ai quand même trouvé l'ensemble pas si terrible que ça. Notamment, moi je la trouve plutôt réussie, cette tapisserie qui borde le corridor, le couloir, on va dire, ouais, qui conduit dans l'exposition, enfin dans le cœur de l'exposition, qui est une partie de l'exposition. Je la trouve intéressante parce que effectivement elle est prise d'après photo, des photos du bureau ou de l'atelier ou de je ne sais quoi. On y voit des écrans d'ordinateur sur lesquels sans doute l'artiste travaille. On y voit ces tableaux dont je partage votre point de vue, Stéphane, ils deviennent un petit peu irritants au bout d'un moment, les tableaux à slogan quand on en colle partout. Et c'est devenu un tic dans son travail, et ça, c'est vraiment un problème, parce que dans toutes les expositions, depuis le début, on en voit. Il faudrait peut-être un peu se calmer sur le sujet. J'ai trouvé cette grande tapisserie donc assez intéressante, parce que elle pose très bien d'emblée, puis elle est très bien réalisée, une des constantes du travail de Laure Prouveau qui moi m'intéresse, qui est d'entretenir une zone floue presque parallèle entre le réel et ce qui ne l'est pas, et qui évite de décider quelque part, et j'aime bien cette indécision dans laquelle je sais pas si elle se place elle-même, mais en tout cas elle nous place nous-mêmes. Après, l'argument géologique, bon, voilà, global warming, ok, c'est le truc du moment, c'est la question du moment, on aurait pu parler d'autre chose. Ce qui est très bien, c'est qu'elle soit sortie de l'atelier du grand-père, parce que ça faisait longtemps qu'elle y était, et que ça, c'est très très bien d'avoir voulu passer à autre chose. Sinon, une chose quand même qui est centrale dans le travail et qui m'intéresse aussi, c'est cette question de la technologie qui est déconnectée et qui renvoie toujours à une question d'une omniprésence de l'écran et qui devient aussi, j'ai l'impression, une omniprésence de la surface plane. Et donc il y a une ambiguïté entre l'image, l'écran, le tableau. Qu'est-ce que ça nous dit ? Est-ce que ça nous dit des choses complémentaires ou des choses contradictoires ? Là encore, il n'y a pas de réponse toute faite. Et donc tout ça contribue à complexifier quand même la réalité. Donc voilà, ces questions-là, moi, m'intéressent dans le travail de Laure Prouveau. Après, la concrétisation, je ne suis pas franchement convaincu.
Non, mais ouais, j'allais rebondir là-dessus, parce que c'est vraiment ça la question, c'est que, bon, mettre des questions sur le tapis, bon, on a l'impression que la plupart des expositions font ça, on aimerait quand même peut-être avoir quelques pistes, peut-être de réponses. On ne demande pas d'avoir des réponses à toutes nos questions, mais simplement faire un état des lieux. J'ai l'impression que les salles d'exposition sont beaucoup des lieux où effectivement on dit voilà, on vit dans ce monde-là, il se passe telle chose, telle chose, telle chose, l'omniprésence des écrans, le réchauffement climatique, les migrants. Enfin, ça se passe aussi sur les scènes de théâtre, ça peut se passer aussi dans certains films de cinéma. On a envie quand même que nos artistes nous proposent une vision, enfin nous proposent quelque quelque chose d'autre, si ce n'est pour étaler la réalité sous nos yeux, que ce soit bien mal fait, avec des technologies basses ou hautes. Est-ce qu'on a, on n'est pas un peu fatigués les uns et les autres? Alors Florian Gatté, vous qui avez si bien décrit pour ouvrir cette dispute, est-ce que ça vous raconte des choses, ou est-ce que ça vous dit des choses, est-ce que ça vous interroge, est-ce que ça vous... Oui.
Bah, très honnêtement, moi ça ne me fait pas la leçon, quoi. J'ai trouvé que ce
discours... Ah non, parce que ça ne dit rien.
Non, mais même, enfin, même les références sur la réflexion écologique, etc., elles sont quand même hyper discrètes, quoi. Je trouve que c'est pas quelqu'un qui arrive avec ses dossiers.
Ah oui, il y a beaucoup plus lourd, on est d'accord.
On est d'accord, quoi. Elle rentre pas dans un truc un peu moralisant, ou faire une sorte de prosélytisme par là. Moi, je trouve que c'est hyper discret, hyper tenu, que si on n'a pas envie de le voir, on ne le voit pas, et qu'au contraire, on peut rentrer dans une narration hyper personnelle, beaucoup plus intéressante. Et faut voir que ça prend, moi, je l'ai pris comme ça, vraiment, l'exposition. Vraiment, j'ai pas eu l'impression de ressortir avec, de me sortir grandi écologiquement, parce que j'ai vu cette exposition-là, hein. Vraiment pas du tout. Si c'était son enjeu, je pense qu'effectivement, elle l'a loupé. Et c'est pour ça que même les figures les petites coupures de presse, alors certes, il y a la référence à la ZAD, etc. Mais ça va, quoi. C'est pris dans un ensemble que j'ai trouvé, pour le coup, effectivement, assez anecdotique.
Oui, mais justement, je crois que c'est bien là le problème, parce que, et pourtant, sans parler d'un aspect moralisateur que j'exècre dans l'art contemporain, et j'ai toujours dit que je détestais les artistes qui arrivent en vous hurlant à la figure, qui sont politiques et qui font de l'art politique, donc je vais le redire encore ce soir, mais ça n'empêche pas, donc sans vous hurler que vous faites de la politique, de prendre position et d'affirmer, d'avoir un propos affirmé. Là, en effet, on survole les pâquerettes. On ne sait pas très bien, et c'est ça le vrai problème de l'exposition, c'est que on ne sait pas au final quelles questions l'intéressent vraiment et quelles questions elle veut véritablement aborder, parce que justement, on reste à la surface des choses et on ne s'engage jamais dans le discours. Ça, c'est le vrai problème.
Je voulais en guetter, puis Stéphane, quand même.
Certes, mais j'ai l'impression que justement, donc c'est la saison enfance, hein, et que finalement, là, elle a produit un
saison enfance du Palais de Tokyo, qui propose différentes expositions.
Et c'est presque un geste infantile, quoi, qu'elle nous fait avec, effectivement, un enfant qui ne sait pas forcément prendre position. Le monde sérieux, le monde des adultes est ailleurs. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans cette position, c'est que justement, on se retrouve dans une forme de jardin broussailleux, un peu défraîchi, avec pas d'idéalisation de l'enfance, quoi. Je me rappelle vraiment, moi, mais la campagne, quand j'étais petit, c'était sale, c'était douloureux, il y avait des épines, il y avait des trucs morts, il y avait des chats morts ici, etc. Et on construisait une narration à partir de ça. Et moi, je me suis replongé véritablement dans cet état-là, quoi. Alors après, effectivement, j'ai l'impression que tous les questions qui sont à côté sont des questions d'adultes, qu'on entend, qui sont là, mais qui finalement ne nous posent pas vraiment souci, parce que ça ne nous concerne pas encore.
Stéphane Correa.
Oui, c'est vrai que cette mise en scène de l'impuissance peut être quand même problématique. Enfin, en même temps, Florian souligne que cette exposition vient dans le cadre de cette saison enfance au Palais Tokyo, qui, à mon avis, est spécialement catastrophique et n'offre pas un écrin qui rehausse leur prouve. Et au contraire, c'est plutôt effectivement moins catastrophique que le reste. Mais c'est vrai que qu'est-ce que ça dit? Alors, je me suis plongé dans l'entretien qu'elle donne à Daria de Beauvais, la commissaire de l'exposition. C'est vrai qu'elle dit des choses très très nouvelles et profondes sur le sujet. Par exemple, elle dit « La nature s'adapte à l'humanité parce qu'elle est contrôlée par elle, même si régulièrement elle nous dépasse et reprend ses droits. » Donc là, effectivement, je ne le savais pas. Quand même, sur cette idée, sur cette fontaine, qui est quand même là le masterpiece de l'exposition, elle dit, sur le rapport homme-femme, hein, puisque c'est son autre gros sujet, « Non seulement notre façon d'intellectualiser les choses diffère de celle des hommes, mais nous avons aussi une histoire différente et des corps différents. C'est intéressant d'explorer cela en ayant recours à l'imaginaire, et c'est pour ça que dans ma fontaine, il n'y a pas deux seins, mais neuf. » Alors, j'ai relu cette phrase, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas, enfin, si l'imaginaire, c'est dire il y a neuf saints plutôt effectivement que deux, vu qu'elle se réfère explicitement à la fontaine Mère Nature, la Fontana Madre Natura de la Villa d'Est à Tivoli où il y en a 15. Donc en fait, je ne sais pas où est son imaginaire entre deux et 15.
Il y a l'homme de Hibert.
Il y a l'homme d'Hibert, enfin. alors ça, c'est un peu le problème, de toute façon, c'est qu'il y a aussi Louise Bourgeois, il y a aussi Elsa Sahal. Enfin, là, on est quand même, je sais bien que l'originalité, la singularité, la réussite formelle ne sont plus des critères positifs dans l'art contemporain, mais enfin là, quand même, je trouve qu'on est très loin. Un des autres problèmes, c'est que c'est manifestement un peu, d'ailleurs, comme Camille Henrot, elle se revendique surtout comme vidéaste. Et simplement, on a construit des institutions comme Palais Tokyo qui sont des mètres carrés. Hein, c'est pas des pixels. Donc, du coup, faut occuper la place. Malheureusement, elle n'est pas, à mon avis, elle n'a pas le talent de Nel Belloufa pour ça.
Frédéric Bonnet.
Oui, et puis pour revenir sur ce que vous disiez, Florian, on est dans le cadre d'une saison sur l'enfance, mais on n'est pas obligé d'être niais parce qu'on est dans le cadre d'une saison sur l'enfance. Et effectivement, moi aussi, je la trouve globalement assez ratée, cette exposition sur l'enfance. Mais vous descendez quand même au sous-sol et vous allez voir le magnifique film de Sharon Lockhart qui sauve le tout, qui est vraiment, s'il y a un truc à aller voir au Palais de Tokyo, là, c'est ça. Il faut prendre les 31 minutes que ça dure, il faut rentrer, s'asseoir et regarder. Qu'est-ce que c'est? Elle est allée à Lodz, elle a filmé 5 ou 6, je ne sais plus, cours d'immeubles dans lesquels jouent des enfants. Mmh. Et c'est brillantissime, mmh. C'est remarquable, de justesse sociale. Là, on parle de société, là, on parle de politique, mais encore une fois, sans vous le hurler à la figure. C'est des plans fixes qui sont cadrés à la perfection. Il y a un travail de l'image qui est impeccable et une justesse du regard qui est portée sur ces enfants qui jouent, notamment un, je crois que c'est le plus touchant de tous, qui joue avec son tricycle autour d'une flaque d'eau, à essayer de ne pas marcher dans la flaque, ça dit tellement de choses. Et voilà, et on n'est pas obligé de rester dans le domaine du sucré ou de la niaiserie. Mmh.
Oui, celui qui joue au foot n'est pas mal non plus en,
ouais.
en tapant. Tout à fait.
Les bonbons sont avariés hein, quand même.
C'est sûr.
Qu'est-ce que vous dites, Florian?
C'est pas non plus le sucré. Enfin, on peut pas qualifier comme ça cette exposition, dans la mesure où tous les bonbons sont pourris et que moi j'ai beaucoup aimé cette vision de l'enfance justement qui sort du côté édulcoré.
Allez voir par vous-même, c'est toujours ce qu'il y a de mieux à faire, cette exposition de Laure Prouveau et puis de voir le reste de la saison enfance visible donc au Palais de Tokyo jusqu'au 9 septembre et un livre graphique paraîtra mi-juillet aux éditions du Palais de Tokyo. À suivre dans la dispute. On retourne en Grande-Bretagne, d'où vient Laure Prouveau, pour les impressionnistes à Londres, c'était d'une exposition, et Guernica, qui est le titre d'une autre exposition.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir aux arts plastiques avec une exposition du Petit Palais. Pour rappel, la guerre de 1870, la chute du Second Empire, la Commune de Paris, ça faisait quand même beaucoup pour certains Français, dont pas mal d'artistes qui ont alors choisi l'exil au Royaume-Uni. Par ailleurs, le marché de l'art s'y portait assez bien et Durand Ruel, le galeriste, n'y était pas pour rien, on l'évoquera évidemment. L'exposition va donc suivre pour partie le parcours contrasté d'ailleurs, les parcours contrastés d'artistes. Certains confirmés, d'autres de talents qui vont s'y affirmer. On retrouvera aussi bien Carpeau, Monet ou Derain. Je crois qu'on a traversé la Manche glorieusement à entendre cette musique d'Ed Vorak. Je n'ai pas dit tout à l'heure que le commissariat de cette exposition Les Impressionnistes à Londres est dû à Isabelle Collet, Caroline Corbeau-Parson, Christophe Leribaud avec la participation scientifique d'Amélie Simier. Et si on suivait Stéphane Coréard dans le Petit Palais, qu'est-ce qu'il nous dirait?
Bah écoutez, je vous dirais d'abord qu'on ne devrait pas confier le commissariat d'exposition à des conservateurs historiques de la ville de Paris. Parce que, on l'a vu depuis quelques mois, la programmation du Petit Palais est opportuniste, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est à la fois pragmatique, aguichante. Mais il y a parfois, et même peut-être de plus en plus souvent, un abîme entre le pitch et l'exposition. D'ailleurs, un tweeto a répondu ça. Il a dit, bah oui, évidemment, les impressionnistes ne sont pas là puisqu'ils sont à Londres. C'est un peu ça. Et puis, il y a cette dimension un peu ville jumelée avec. Alors ça, c'est le côté municipal. C'est-à-dire qu'on a eu les Hollandais à Paris. Maintenant, c'est les Français à Londres. Alors, comment se déroule cette exposition? Les premières salles sont un peu, à mon avis, laborieusement illustratives, à l'image du tableau de Gustave Doré qui nous cueille un peu à froid. Sœur de la charité sauvant un enfant, épisode du siège de Paris. Et en fait, d'impressionnisme, toute la première partie de l'exposition est plutôt dévolue aux peintres-pompiers, même si quelques curiosités intéressantes surnagent. Donc la première partie d'exposition, c'est Paris en guerre, Paris en ruine, avec quand même des sommets de tartarie picturale comme Ten 4, la place du Carrousel et ruines des Tuileries. On a même droit à Meissonier, le siège de Paris, donc là on est quand même très loin des impressionnistes. Et puis il y a l'arrivée à Londres, alors là c'est toujours beaucoup de Gustave Doré, et puis des curieux kiosques vieillots avec des cornets acoustiques, là, on a l'impression d'être avec Trifon Tournesol. C'est une promenade sonore. Alors la scénographie, il faut dire, est luxuriante, on n'est pas du tout dans le low-tech de Laure Prouveau là. Il y a quand même une circonstance aggravante, c'est qu'on est passé de Paris à Londres, ça d'accord, mais c'était dans une espèce de monumental panorama, une sorte de dessin animé fait à partir de tableaux de Claude Monet qui tangue avec des corbeaux menaçants qui traversent. Là on voit bien qu'on est dans la culture espacisation des expositions, bien repérée déjà ici. Enfin, on arrive avec un léger mal de mer à Londres, et surtout dans une minuscule salle où là il y a quelques peintres impressionnistes. Alors là on se dit ça y est, on touche au but, mais effectivement, comme le sous-titre de l'exposition le dit, on est en 1870, donc le groupe impressionniste n'étant pas constitué, on peut pas trop leur reprocher. Mais enfin, il y a quand même des peintres impressionnistes, mais avec des toiles qui sont beaucoup moins impressionnistes. Puis il y en a pas beaucoup, donc deux Monet là pour l'instant, dont une méditation, un portrait de sa femme dont on sait même pas d'ailleurs si c'est un rapport avec Londres. Alors ça a peut-être même été peint avant, enfin on sait pas, voilà. Et ils le savent pas, et nous non plus, donc ils partagent leurs doutes, c'est plutôt sympathique. Et puis il y a trois Pissarro, des jolis petits paysages de la campagne de Londres, mais on est plutôt globalement dans le pré-impressionnisme. Et puis là, on croit qu'on est arrivé, mais pas du tout. On repart en arrière, si je puis dire, avec une enfilade de salles monographiques qui sont pas désagréables, mais qui n'ont strictement rien à voir avec l'impressionnisme, ni de loin, ni de près. D'abord, il y a une salle sur l'exil économique de Carpeaux. Ensuite, deux salles, ce qui est quand même beaucoup, consacrées à James Tissot, un peintre pour lequel on pouvait avoir encore un petit peu de sympathie, mais je vous rassure, l'exposition enlèvera les derniers lambeaux de considération que vous pouviez nourrir pour cette peinture mondaine, affectée, bavarde. Et puis après, il y a Jules Dallou. Enfin là, on est vraiment en âge, en plein délire. Et il faut atteindre quand même la salle 9 sur 11. C'est-à-dire qu'on s'est déjà tapé 90% de l'exposition pour voir les premiers tableaux impressionnistes. Mais il y en a des très beaux.
Ah, c'est bien. On reste sur ces trois points de suspension après cette brillante entrée en matière. Frédéric Bonnet, pour suivre.
Oui, je partage tout à fait cette opinion. Le titre est parfaitement trompeur, parce que c'est pas du tout une
exposition. On rappelle qu'on va parler de Guernica après.
Oui.
Autre titre, peut-être trompeur, non? Nous verrons. Bon, on en parlera dans une dizaine de minutes.
Mais oui, non, le titre est complètement trompeur, parce qu'en effet, ce n'est pas du tout une exposition sur l'impressionnisme à Londres ou les artistes impressionnistes à Londres. C'est une exposition sur les artistes français à Londres au tournant de l'impressionnisme, dont on vous raconte l'exil politique ou économique. Et le propos va pas beaucoup plus loin que celui-là. Alors, en effet, une fois qu'on y arrive à l'impressionnisme, il y a deux beaux morceaux d'accrochage. Il y a trois Whistler sublimes, et alors vraiment magnifiques. Et puis, réussi aussi, cette cimaise dans l'avant-dernière salle, courbe, sur laquelle il y a cinq vues de Monet, de la Tamise et du Parlement, avec des ambiances chromatiques différentes, introduite par un tableau vraiment magnifique qui aurait tout à fait pu être dans l'expo de l'Orangerie sur la peinture américaine, qui est Leicester Square de nuit, donc avec des couleurs qui véritablement se dilate, explose, donc la lumière de la place explose, voilà. Et avant tout ça, effectivement, on est passé par des heures et des malheurs, mais par beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le sujet. J'ai quand même trouvé très intéressante la salle consacrée à Alphonse Le Gros, qu'on voit quand même jamais nulle part, et qui est ce que j'ai trouvé de ces artistes pré-impressionnistes, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, un peintre réaliste vraiment sans aucune fioriture, un réalisme dur, sans phare, sans accessoires. Je trouve qu'il y a un très beau tableau qui s'intitule Le repas des pauvres, dans des tons neutres, avec des modelés très très secs. Donc voilà, j'ai été intéressé de redécouvrir Alphonse Le Gros, même si encore une fois, ça a aucun rapport avec le sujet, n'était-ce que de savoir que Le Gros, en fait, en plus lui, circonstance aggravante, a émigré bien avant la guerre franco-prussienne de 1870 et la commune. Puisqu'il s'est installé à Londres en 1863, donc ça n'a vraiment aucun rapport avec le sujet. Et en effet, juste après ou juste avant, je sais plus, on a James Tissot. Et alors là, on n'en peut plus parce que c'est vraiment une avoir consacré autant d'espace à un artiste dont la peinture est tellement lisse, tellement bourgeoise, tellement connotée. J'ai rien contre la peinture bourgeoise en elle-même si elle me parle de quelque chose. Là, elle me raconte rien d'autre que des scènes de genre immergées dans une bonne société londonienne sirupeuse. Et effectivement, quand vous vous mettez le cornet sur l'oreille pour écouter les bornes audio, là, on finit de échoué parce que ce qu'on entend n'a absolument aucun intérêt, c'est des dialogues du genre on est dans une galerie, oh mais ces peintures sont absolument formidables, et voilà, et ça va pas plus loin que ça, donc faudrait peut-être mettre un peu moins d'argent dans la scénographie et un peu plus, je sais pas, dans le propos à chercher, je sais pas.
C'est vrai qu'ils sont un peu curieux, ces kiosques téléphoniques. Florian Guettet, qu'on n'a pas encore entendu, qui va réhabiliter James Tissot, allez voir.
Non, je crois pas.
Non.
Non, en fait, la question que pose cette exposition, c'est est-ce qu'il y a une question à poser, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sûr qu'il y ait vraiment un sujet. Alors certes, il y a eu une exposition en 74 à la Hayward Gallery sur les impressionnistes à Londres. On espère qu'elle a été plus réussie que celle-là, parce qu'effectivement, on se trouve à chercher un petit peu le premier fil pour pouvoir rentrer dans cette histoire des impressionnistes, mais la plupart du temps, on se retrouve face à une peinture réaliste qui n'est pas très séduisante. Je pense que effectivement, la peinture de genre de Tissot, elle est aussi à l'image des ambitions, on va dire, artistiques de l'Angleterre à ce moment-là. C'est-à-dire aussi quelque chose de très codé, de très mondain, un peu austère, un peu grisaille. Voilà, on voit d'ailleurs la critique a été très mauvaise des impressionnistes. On leur dit que finalement, c'est flou, c'est achevé, c'est barbare, c'est tout ce qu'on veut. Donc il y a rien qui se passe vraiment comme échange entre Londres et Paris. Les passages des impressionnistes, de ceux qui vont devenir les impressionnistes à Londres, ne laissent que peu de traces. Or certes, il y a des sujets, effectivement, Westminster, on n'aurait pas pu le trouver en France, donc c'est bien d'être allé le chercher à Londres, mais ça ne crée pas de bouleversement majeur. D'ailleurs, Monet, de toute façon, il reste que quelques mois, Carpo aussi, il reste un an. Finalement, ceux qui restent, ceux qui rentrent dans le jeu, donc Tissot, c'est quand même un clientéliste, c'est quelqu'un qui finalement va répondre à des commandes de la plupart du temps. D'ailleurs, celui qui était caricaturiste de Napoléon III se retrouve à faire des portraits élégants et plutôt en censeur de l'impératrice Eugénie. Donc on voit bien là aussi qu'il y a un changement de cap qui est sans doute motivé par l'argent, parce qu'en fait s'ils partent à Londres aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce que le siège de Paris, parce que l'insuccès aussi de leurs œuvres, parce qu'ils ont été enrôlés dans la garde nationale et que parfois ils ont perdu leur maison, etc. Donc on voit bien aussi les motivations financières. C'est pas un vrai amour pour ni la scène ni les paysages anglais. Donc ensuite ils font avec ce qu'ils ont. Certes, ils sont beaucoup plus à l'extérieur qu'ils ne pouvaient l'être à Paris. Bon, à Paris, il y avait des bombardements, donc on imagine aussi que ça doit jouer dans ce choix-là. Donc, on va chercher, en fait, des sortes de petites perles, comme ça, qui vont pouvoir quand même agrémenter notre parcours. Moi, j'ai trouvé le Corot, le rêve, que Paris incendié, hyper intéressant, parce que je trouvais que c'était une sorte de première évolution de ce qu'allait devenir l'abstraction. Je trouvais que c'était tous les aplats, comme ça, où plus rien n'est vraiment reconnaissable. J'étais assez surpris de voir ce Corot-là. Bon, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais bon, en tout cas, il est là.
Cette figure centrale là, qui reste, qui incarne la France, qui tient encore debout, mais avec l'ange exterminateur qui s'envole, ouais, c'est assez troublant comme tableau, sauf qu'il a effectivement peu de choses à faire dans cette exposition, a priori.
Tout à fait, donc voilà, c'est une expo des bas-côtés aussi, oui. Pourquoi pas. Et puis ensuite, moi j'ai été beaucoup impressionné par les Whistler, les trois Whistler qui sont là. Effectivement, après on tombe sur les Monet, un peu plus classique, plus académique, plus attendu aussi. Non. Et par contre, on aurait pu s'arrêter là, parce qu'effectivement, aller chercher Derain et Vollard, dont on avait déjà dit pas le plus grand bien au moment de sa rétrospective à Pompidou, ça fait quand même une petite chute après une sorte de point d'acmé que pouvaient représenter les tableaux de Monet.
D'accord. Stéphane Correa.
Oui, alors malgré tout, le conseil qu'on peut donner, parce que comme vous le dites toujours Arnaud, il fallait se rendre compte par soi-même, c'est que si vous pouvez effectivement court-circuiter et passer par la fin pour ne regarder que les trois dernières salles, si vous avez peu de temps, c'est plutôt ce qu'on vous conseille. Vous devrez passer par le petit couloir de Derain. Vous arriverez dans la salle des Monnaies où effectivement il y a donc ces cinq vues du Parlement. Je suis d'accord, c'est vrai que les Parisiens n'avaient pas forcément besoin de traverser la Manche pour retrouver un fleuve et des beaux bâtiments au bord, parce qu'à Paris on a aussi ça. C'est quand même pas la même lumière,
non,
donc c'est
non,
pas la même qualité de lumière.
C'est
même peut-être quelque part plus radical que les cathédrales de Rouen, d'une certaine manière. Donc je trouve là un très beau choix de tableau. Les trois Whistler, j'abonde totalement, notamment il y a un petit bijou qui est daté vers 1872-1875 qui s'appelle Nocturne en bleu et or, qui est un tableau vertical comme ça, où il y a une pluie d'étoiles qui tombent. On ne sait pas si elles tombent du ciel, du pont, et puis elle va s'abîmer comme ça. C'est quand même hyper mélancolique. On a aussi d'être chez Spillart. Enfin, il y a une espèce de symbolisme comme ça, très beau. Et puis, quand même, dans la salle, juste avant, moi, j'étais très heureux de voir cinq toiles de Pissarro, dont trois très bien choisies, parce que c'est pas un artiste que j'affectionne en général. Mais là, il y a notamment le Hampton Court Green de 1891, qui est hiératique et solennel, presque comme un Seurat. Le premier aussi, le Pont de Charing Cross, 1890, qui est poudré, subtil, complexe, presque monochrome. Et ça m'a fait très plaisir dans cette grisaille.
Bon, même sentiment pour ces œuvres-là, Frédéric Bonnet opine.
Oui, non, sur ces œuvres-là, en effet, et sur le fait aussi qu'on aurait pu s'abstenir du Derain dont j'avais dit, je m'en souviens parfaitement, que ces Derains de Londres étaient assez catastrophiques, à mon avis. Après, c'est comme dans toutes les expositions. Bon, il y a quand même eu de la recherche, et puis en fouinant et en prêtant un peu attention, on tombe sur des carnets de dessin qui sont intéressants. Enfin, il y a des choses, il y a de la matière, il y a des choses à regarder. Il y a des petits dessins de Carpeaux que j'ai trouvé.
Trouvé
très bien. Il y a un petit carnet de Jules Dalou aussi, assez étonnant, parce que c'est la même, c'est quasiment le tableau du Monet, de la femme de Monet, alanguie sur son canapé, qui a l'air de s'ennuyer, à mourir au bord de la dépression, et parce que donc manifestement à Madame Londres ne lui plaît pas du tout. Et dans une vitrine juste à côté, il y a un petit carnet de Jules Dalou et qui représente sa femme dans la même position sur quasi le même canapé. Je n'en tire aucune conclusion.
Non, aucune.
Mais non, absolument aucune. Non. Mais voilà, donc il y a quand même des choses à aller découvrir.
Allez, découvrir par vous-même les impressionnistes à Londres, artistes français en exil, 1870-1904, c'est jusqu'au 14 octobre au Petit Palais, et puis un catalogue édité par Paris Musée sous la direction de Caroline Corbeau-Parsons.
France Culture, la dispute, Arne Laporte. Get the right.
Le troisième sujet au sommaire de cette dispute art plastique, c'est donc Guernica, au Musée Picasso Paris. Guernica, toile peinte en 1937, toile conservée de manière permanente à Madrid depuis 1992, un des totems de l'art moderne, symbolisant aussi bien l'antifranquisme, l'antifascisme ou le pacifisme. Cette exposition Guernica est donc une exposition sans Guernica, puisque la toile ne bouge plus, mais construite à partir évidemment de nombreux prêts du musée de la Reina Sofia, des esquisses, des post-scriptums de Guernica, et une exposition qui entend aussi montrer l'histoire et la postérité de ce tableau, et aussi jusqu'aux relectures ou variations réalisées par plusieurs artistes contemporains, Robert Longo, Artem Language, Damien de Roubaix et quelques autres. Les commissaires de cette exposition sont Émilie Bouvard et Géraldine Mercier.
In Guernica, the dead children were laid out in order upon the sidewalk, in their white starched dresses, in their pitiful white dresses. On their foreheads and breasts are the little holes where death came in as thunder while they were playing their important summer games. Do not weep for them, Madre. They're gone forever, the little ones, straight to heaven, to the saints, and God will fill the bullet holes with candy.
Voilà, parmi les artistes inspirés par Guernica, John Baez, qu'on vient d'entendre ici dans ce court extrait qui évoque ce tableau, Florian Guettet. Non, c'était déjà vous tout à l'heure, alors ça va être Frédéric Bonnet qui va commencer, tiens. Non, oui, bah pardon, je vais tourner, hein. Des fois je me trompe.
Donc, effectivement, Guernica n'est pas là, donc puisque c'est une exposition consacrée à un tableau, moi j'appelle ça une exposition dossier, comme on en voit parfois dans les musées, sauf que là c'est un très gros dossier, hein, parce que ça vous remplit quand même toutes les salles temporaires, donc deux étages, de manière un petit peu laborieuse tout de même, j'ai trouvé, parce que manifestement, ça ressemble comme à une grosse opération de communication. On vous placarde en gros Guernica, donc ça crie, ça va attirer du public, ça va nous remplir le musée pour tout l'été. Donc comme ça, on est tranquille.
Et jusqu'au 29 juillet, mais ça a commencé le 27 mars, hein, certes. Donc ça fait un certain temps.
Mais donc tout n'y est pas intéressant, mais elle est assez problématique. Déjà, elle commence, je trouve, de la pire manière qui pouvait être, avec dans la toute première salle, qui est même pas la première salle, qui est une sorte de vestibule, on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a un morceau du châssis original de Guernica. Et alors là, vous vous retrouvez face à un objet énorme. Qui, si vous savez pas que c'est le châssis de Guernica, de toute façon, ça n'a absolument aucun intérêt, ni visuel, ni rien. C'est un bout de bois. Et ça n'a absolument aucun intérêt. C'est juste du fétichisme, sans absolument aucun intérêt. Après, elle vient d'où, cette exposition? Elle vient, en fait, de la réflexion qu'avait menée Manuel Borja-Vilel, le directeur de la Reina Sofia à Madrid, qui conserve le tableau. Qui, il y a quelques années, a voulu complètement repenser les salles adjacentes à Guernica, de manière à placer le tableau dans une histoire sociale et culturelle plutôt qu'artistique. Mais on est à Madrid, sur le terrain même du tableau, si je puis dire, et ce qui intéressait Manuel Borja-Vilel, c'était aussi d'ouvrir les interprétations, de montrer notamment qu'il y avait une dimension religieuse et cathartique au tableau qui est pas forcément la lecture qu'on en fait le plus souvent. Donc là, on a transposé ici au musée Picasso une partie de cette recherche, mais bon, ça traîne en longueur.
C'est-à-dire qu'à la Reina Sofia, c'est vrai qu'on a la chance, si on y va, d'avoir le tableau et le dossier qui l'accompagne. Mais on peut faire des allers-retours.
Ici, c'est que d'une manière assez laborieuse, donc on vous parle du substrat. On vous parle du substrat politique, on vous parle de comment s'est constitué le pavillon espagnol pour l'exposition internationale à Paris. Hein. On vous fait une salle avec une maquette du pavillon, ça n'a strictement aucun intérêt. Il y a une maquette du pavillon et 3-4 photos du pavillon, plus une maquette de la sculpture de Calder qui était à côté. Ça n'a strictement aucun intérêt, là encore. Il y a une salle dévolue aux portraits de femmes en pleurs, dont certains ont peut-être été des études pour le tableau. C'est intéressant, on n'était peut-être pas obligé d'en faire une salle complète. Voilà, on n'était pas obligé peut-être non plus de faire un mur complet sur les affiches des communistes espagnols ou des mouvements antifascistes. Voilà, donc tout ça ressemble quand même beaucoup à un remplissage. Et la cerise sur le gâteau, qui est d'amener des regards contemporains, on va dire, sur Guernica, ça finit quand même de nous achever la chose.
C'est toujours le même problème, on en parle à chaque fois.
Mais que vous voulez.
Non, mais c'est vrai, hein.
Mais oui, absolument.
Il faudrait donc arrêter, peut-être.
Bah oui.
Oui, pardon, je vous interromps, cerise sur le gâteau.
Non, mais voilà, parce que effectivement, si Art and Language s'en sort plutôt pas mal avec une relecture de Guernica façon Pollock, arguant du fait que Guernica a pu être une matrice pour Pollock, quand on arrive en haut de l'escalier et qu'on a le Guernica, même format vu par Tatiana Doll, mais en version dégoulinante, là, c'est pas glamour.
Pas glamour, c'est sur ces deux mots que vous passez la parole à Florian Guettet, qui lui est terriblement glamour, toujours.
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 Un peu moins que Picasso, mais quand même. Non, alors c'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir une sorte de discours hyper historique sur cette icône en fait de l'art moderne, en se disant que effectivement c'est l'œuvre qui a forcé Picasso à dire que l'art était une arme de guerre et donc effectivement de politiser le propos, etc. Sauf que moi, ce qui en sort en fait à la fin de l'expo, c'est que cette œuvre, c'est encore une façon pour Picasso de se célébrer lui-même, plus que de vraiment faire un pas dans la société, quoi. Alors certes, les motivations sont hyper sincères, hein, je les crois vraiment, il sait pas trop, on lui passe une commande pour ce fameux pavillon, il cherche, alors il regarde toute l'iconographie des révolutionnaires, le point levé, la faucille, le marteau, et puis ça l'intéresse pas trop. Il va chercher, au début d'ailleurs, il commence même par faire des peintures d'atelier, de son atelier avec son modèle, donc rien à voir a priori avec la Révolution, et puis, j'ai envie de dire, coup de bol pour lui, arrive le bombardement de Guernica, ce qui fait qu'il a d'un coup une matière, puisque ça l'affecte vraiment. Alors, il avait déjà évidemment une sorte d'inimitié affirmée avec Franco. Il se moquait de lui. D'ailleurs, on peut voir des sortes de caricatures qui au début devaient être des cartes postales, puis qui finalement seront présentées comme portfolio dans le pavillon. Mais finalement tout ça avec un prétexte à faire la synthèse plastique de ses dernières recherches en fait depuis le début des années 30 avec effectivement des motifs religieux, la crucifixion qui va donner ses compositions triangulaires avec les femmes éplorées qui va donner ses grandes bouches ouvertes, le combat entre le cheval et le taureau, même si là finalement je le trouve assez amoindri par rapport à d'autres images qu'on peut voir, notamment la grande corrida qui est une sorte de gravure très complexe, pratiquement illisible, où on voit effectivement un vrai travail presque chaotique de ce combat, cette brutalité du réel là, qui là bon, est un petit peu plus lissé dans Guernica. Et puis effectivement, il y a toute une dimension que j'apprends là que ça faisait partie du projet initial en Espagne, mais toute la fonction cathartique finalement je l'ai très peu vu, quoi. C'est vraiment effectivement il y a aussi des éléments biographiques intéressants, le trauma de sa sœur qui est morte, etc., qui finalement là est passé sous silence, qui pouvait être aussi peut-être une piste intéressante plutôt que ramener à la grande histoire avec sa grande hache, pour paraphraser Pérec. Donc de ce côté-là, j'ai pas eu l'impression d'avoir une intimité supplémentaire avec ce tableau. Et effectivement, je trouve que la comparaison avec les contemporains est assez sévère pour les contemporains, notamment de Roubaix qui fait donc une reproduction telle quelle, parce qu'on reste quand même, parce qu'on n'a pas pu montrer le tableau, on présente des tableaux qui l'ont reproduit pratiquement à l'identique, à l'échelle 1, voilà, en changeant le médium. Donc pour de Roubaix, c'est fait sur bois, ancré et brûlé, voilà. Alors, par contre, j'ai trouvé plus intéressante la toute dernière, où précisément on voit justement le Art and Language du Guernica façon Pollock, où on voit aussi une vidéo de Pilar Albarracín, où on voit des ouais, moi j'aime bien ça. non mais parce que
c'est avec Bonnet, visiblement.
Non mais c'est un thème en fait qu'on retrouve beaucoup chez Picasso, du chat qui vient bouffer les oiseaux, etc., qu'on retrouvait d'ailleurs chez leur Provost, et qu'on retrouve petit clin d'œil, et qu'on retrouve non mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, et bon, enfin bon, et qu'on retrouve là. Donc ce sont des sortes de on sait pas trop, c'est censé être des colombes, en tout cas des oiseaux blancs qui sont empêtrés, agonisés dans leur grille, et là d'un coup on retrouvait une forme de férocité en fait qui manque d'une façon générale sur le parcours de cette expo.
Bien, après deux points de vue très circonstanciés, Stéphane Correa.
Oui, je crois qu'il faut revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire que déjà, à mon avis, on ne devrait pas confier le commissariat d'exposition à des conservateurs de bibliothèques. Non mais parce que, comme on le sait, le musée Picasso, de Paris manque de chefs-d'œuvre. De Picasso, puisque les Demoiselles d'Avignon sont MoMA, La femme qui pleure à la Tate moderne, et puis donc Guernica au Reina Sofia. Mais c'est normal, ceci dit, puisque l'État français n'a acheté des Picasso, comme vous le savez, qu'après la Deuxième Guerre mondiale, et que donc finalement ce qui reste là, c'est un peu, c'est la dation, donc c'est une partie des fonds d'atelier de ce qu'il y avait au moment de sa mort. Donc il y a peu de chefs-d'œuvre, mais en revanche, il y a pléthore d'études, mais aussi des œuvres sur papier, et puis aussi des montagnes d'archives, des coupures de journaux, des tickets de pressing, des listes de courses. On les voit tout le temps au musée Picasso. Donc déjà, moi je propose qu'ils donnent tout ça à la BNF et qu'ils se sur les œuvres, parce que là, les expositions de tickets de caisse, on n'en peut plus, quoi. Il faut passer à autre chose. Alors, parce qu'effectivement, Guernica, en plus, le tableau ne voyage plus, comme on l'a dit. Donc, Guernica, l'exposition, est une exposition sans Guernica, le tableau, mais avec beaucoup de coupures de journaux et de listes de courses. Je plaisante, mais presque pas, quand même. Donc, c'est une exposition gigogne qui tourne constamment autour de l'absence du tableau. Et là où je trouve, effectivement, et j'abonderai sur ce que vous avez déjà dit tous les trois, les interprétations contemporaines, en général pas au niveau, mais c'est même pire. C'est-à-dire que le sujet de l'exposition, c'était l'absence de ce tableau. Et finalement, vouloir lui donner une présence à travers des artefacts, des avatars plus ou moins réussis, qui sont effectivement celui de Roubaix, celui de Tatiana Doll, etc., à mon avis, invalide totalement la seule chance qu'avait l'exposition, finalement, d'avoir une tension. Et c'est même pire, puisque dans l'entrée, alors là on n'est même pas dans le vestibule où il y a effectivement le châssis, là j'ai vraiment pensé à, enfin qu'est-ce que ça a à voir à faire avec l'art, là aussi il faut donner ça à peut-être aussi à la BNF ou à je sais pas quoi, au musée du bois, parce que non mais je veux dire, c'est on se croirait dans la scène finale du Guépard, quoi. C'est qu'est-ce qu'on vient voir là, on vient voir le morceau du bois de la croix de Picasso, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir avec l'art quand même. Mais dès l'entrée, en face des caisses, là il y a une reproduction de Guernica sur papier, le vrai à l'échelle 1, et là il y a la foule, il y a la tenace de gens qui sont là en train de regarder ce truc, et en fait là on comprend qu'on peut fermer le musée, remplacer tout ça par des copies papier à l'échelle 1, et que pour 90% des visiteurs, je pense, comme d'ailleurs nos amis de Culture Espace l'ont compris avec Klimt, ça suffira. Ceci dit, donc, l'exposition tourne autour de cette absence, pour le pire, mais aussi un petit peu pour le meilleur. Ah. Je vais y venir. Je reviens, effectivement, donc, ce fétichisme malin qui commence un peu à nous lasser, effectivement, mais il y a aussi une réécriture quand même contestable de l'histoire qui est dans l'exposition et dans le catalogue, parce que finalement ils n'arrêtent pas de supputer sur les sources, les influences. D'ailleurs finalement ils décident de tous les cumuler, ce qui fait que Picasso c'était un ordinateur avant l'heure, c'est-à-dire qu'il avait 3500 sources et puis il en a réussi à en faire une seule image, hein, si on les croit. Il y a aussi une historicisation forcenée quand même qui par moments prend le dessus sur la peinture elle-même. Effectivement on a parlé des affiches, le catalogue et l'exposition ne nous épargnent pas tout ce que Picasso a fait pour les pauvres espagnols, les pauvres artistes espagnols qui sont arrivés là, achetant un bout de beefsteak à l'un, donnant à l'autre un bout de son manteau, etc. Il y a le diaporama avec les images de Doramar qui sont quand même pas franchement terribles, et on n'est pas dans le mystère Picasso, c'est-à-dire qu'il y a quand même 6 images en tout qui sont à peu près faites en 2 jours, donc on voit pas du tout le... Enfin, tout ça n'a strictement aucun intérêt dans cette salle.
Mieux aller voir Doramar à Pompidou-Metz.
Exact, certainement. Et dans cette salle, en plus, il y a là carrément la tête de taureau que Picasso a faite avec une selle et un guidon, qui n'a strictement rien à voir non plus avec le...
Ah, il y a un taureau
là, oui, il y a un taureau, voilà, c'est ça.
Mais, sur 10 sur Picasso.
Oui, c'est comme l'étiquette de caisse.
Je dirais pour le meilleur, dans le sens où, pour, comme on disait, quoi de neuf Victor Hugo, quoi de neuf Picasso. De toute façon, on a vu qu'il y a même une polémique
mensuelle
aujourd'hui.
Quand même,
les gens disent qu'il y a trop d'expositions Picasso, paraît-il. Vous l'avez lu, comme moi, dans le Figaro, Arnaud, votre quotidien préféré.
Non, on l'a dit bien avant le Figaro, depuis un certain temps dans cette émission.
Mais il y a quand même des sacrées œuvres dans cette exposition.
Il manquait plus que ça.
Quelques toiles, effectivement. Il y a la salle des femmes en pleurs qui entoure de Roubaix, qui est peut-être un peu trop en majesté. Il y a même, dès l'entrée, effectivement, cette tête de cheval. Qui est absolument sublime, qui suffit à elle-même, qui est déjà un chef-d'œuvre, pas parce qu'un chef-d'œuvre c'est pas non plus forcément 12 mètres de long. Un chef-d'œuvre ça peut être assez petit, comme vous le savez, Arnaud, vous qui n'êtes pas très grand. Mais c'est surtout, je trouve, les dessins, les œuvres sur papier. Il devrait faire plutôt une exposition Picasso dessinateur, parce que là, il y a des chefs-d'œuvre absolus. Il y a une grande, par exemple. Un Minotaure au javelot, une grande angle de Chine sur contreplaqué, qui est une composition sinueuse absolument sublime. Il y a une autre encre qui est là, on dirait
on
presque
plus,
une eau-forte. Hein, c'est la femme allongée à la bougie. Et puis il y a surtout la série des 9 papiers venus de l'Arena Sofia qui sont alignés comme à la parade sur 2 murs et qui sont tous plus sublimes les uns que les autres. Pardon ?
Ceux-là, ils sont venus quand même de l'Arena Sofia. Donc...
Oui, quand même, ils ne pouvaient pas ne rien envoyer. Donc finalement, au-delà du thème, au-delà du ratage relatif, voire même assez certain de cette exposition, il faut y aller picorer, comme d'habitude, les œuvres.
S'il
n'y
a pas de belles œuvres au musée Picasso, là, on serait quand même franchement surpris. Mais on peut être surpris, comme certains internautes, avec cet
Undoy ? Oui. Michel Frémontier écrit « Guernica sans Guernica », une exposition intellectuelle. Une escroquerie intellectuelle à son point culminant. Elle s'insurge du fait que seule la photo du dit tableau soit visible et peste contre les interprétations des scribouillards barbouilleurs. Michel conclut ainsi, Picasso sans Picasso au musée Picasso, ou comment faire venir les pigeons.
C'était un des problèmes, mais j'ai pas lu le Figaro, mais encore une fois, c'est une chose je pense, dont on reparlera à la rentrée, puisqu'une nouvelle exposition Picasso s'annonce, comme tous les mois, dans ce pays, voire dans cette ville de Paris, où nous sommes présentement. Bon, on s'arrête là sur Guernica, jusqu'au 29 juillet, pas tout l'été. Stéphane Correa, je sais que vous serez triste, au musée Picasso Paris, et puis dire qu'un catalogue est coédité par le musée Picasso et Gallimard. Avant de conclure cette émission, si Stéphane Coréard le permet, le jeu de la dispute, Camille André, qui a live tweeté vaillamment comme chaque soir, nous donne tout d'abord la réponse à la question du jeu d'hier au soir. C'est même mieux si nous rappelez la question.
Bah, on reste dans le thème de toute façon, puisqu'on se demandait hier qui est la femme représentée dans, dans le tableau La femme qui pleure, peint par Pablo Picasso en 1937. Et il s'agit de Dora Maar.
Ce soir, des invitations à gagner pour un des films de la rétrospective Dario Argento. Alors, il y a plusieurs films, évidemment. L'oiseau, Plumage de cristal, Le chat à neuf queues, Les frissons de l'angoisse, Suspiria, Phénoména et Opéra. Tous sortis en version restaurée ce jour dans les salles. Que faire pour gagner cette invitation, Camille?
Eh bien, il faut trouver le troisième film composant la trilogie animalière qui contient déjà L'oiseau au plumage de cristal et Le chat à neuf queues.
Si vous avez ce titre, vous nous l'envoyez avec vos coordonnées postales, tout ça par courriel à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions et vous abonner au podcast, ce qui est toujours utile. Nous vous donnons rendez-vous demain à 19h pour une dispute consacrée à la littérature. Nous serons en compagnie de Raphaël Léris, Philippe Chevillier et Florian Georgesco. À notre sommaire, trois livres de poche pour voyager léger. D'Emler s'en va de Frédéric Berthet à la table ronde. Mon chien stupide de John Fante en 10-18. Et Une sacrée salade de Jacques Laurent également à la table ronde.